Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce nouvel apérophonie sur le 90.8 sur Radio Grenoble. Campus Grenoble, pardon. Aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui va ouvrir la semaine prochaine, le 27 novembre, au Musée Dauphinois, et qui va s'appeler Une histoire juive. Et avec nous, on a la chance d'avoir Franck Philippot, qui est commissaire de l'exposition. Bonjour Franck.
Bonjour.
Amélie Thomas, qui est chargée d'action culturelle.
Bonjour.
Bonjour. Et Maëlys Marquette, qui est service civique sur cette exposition.
Bonjour.
Bonjour à toi. Alors, peut-être pour commencer, on va repréciser ce que c'est que le Musée Dauphinois. C'est vrai qu'on en parle facilement, il est un peu dans la tête de tous les Grenoblois, mais qu'est-ce que c'est la ligne un peu directrice de ce musée qui est perché sur les hauteurs de Grenoble ?
Alors, il est perché, oui, c'est vrai. Il est un peu au-dessus de la cité, peut-être comme un poste d'observation. Et d'observation de quoi ? De nous tous, en fait. C'est un musée dit de société, donc c'est un musée qui s'intéresse aux gens, qui s'intéresse à ceux qui créent un territoire, qui animent un territoire, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi et beaucoup d'un point de vue contemporain. Voilà, donc c'est des portraits, beaucoup de portraits. Il y a beaucoup de... presque une dimension presque radiophonique, on pourrait dire d'ailleurs, avec des rencontres et des voix qui s'entremêlent. Il n'y a pas que le musée qui parle, il y a aussi les habitants qui parlent beaucoup. Voilà.
Alors si j'ai bien compris, vous avez une ou deux expositions au musée par an, selon trois axes. L'aspect plutôt patrimonial, et notamment le patrimoine régional, l'aspect diversité des origines de la population régionale aussi, et plutôt un axe sur les cultures d'ailleurs. Et là, l'exposition qui va nous intéresser sur l'histoire juive, ce serait plutôt dans cet axe-là de la diversité des origines des habitants.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la diversité des origines des habitants. Et en l'occurrence, ce sera même un peu plus subtil que ça. C'est la diversité des habitants qui occupent un territoire. Et c'est notamment pour cette présence juive. C'est aussi rappeler qu'il y a une présence juive historique et deux fois millénaire. Donc oui, il y a des origines de l'ailleurs, dans certaines phases de l'histoire, étapes de l'histoire pour les Juifs. On pense aux Ashkénazes qui viennent de l'Europe orientale, ou des Juifs séfarades qui viennent plutôt du pourtour méditerranéen. On est sur des périodes là très proches historiquement, 19e, 20e, 21e siècle. Mais il y a aussi une présence juive qui a plus de 2000 ans.
Oui, ça c'est peut-être un peu moins connu justement. Et... moi, enfin, peut-être un peu bêtement, mais c'est pas dans ce musée que j'aurais imaginé cette exposition. Enfin, c'est vrai qu'on a aussi un musée tout bêtement de la déportation, un musée plutôt historique à Grenoble qui aurait pu aussi, le musée de la résistance qui aurait pu accueillir cette exposition. Quel sens ça pour vous, enfin pour vous tous les trois, et peut-être vous en avez certainement longuement discuté en équipe, quel sens ça a de mettre cette exposition au musée Dauphinois ?
Thank you.
ça a un sens vraiment important dans l'idée de ne pas restreindre l'histoire juive, notamment à la période de la Seconde Guerre mondiale. Il faut toujours et sans cesse répéter cette histoire et cette période historique, parce que même cette mémoire de la Shoah doit être conservée et défendue. Ça, c'est essentiel. C'est le rôle du musée de la résistance et de la déportation de l'Isère, et qui permet de parler des droits de l'homme, tout simplement. Parler des cultures juives, ou tenter d'aborder cette question de sentiment d'appartenance à la judéité ou au judaïsme, eh bien, on peut aussi faire un pas en arrière, un recul, et de voir qu'il s'agit de bien d'autres aspects que cette mémoire liée notamment à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est des vies en famille, parce que c'est des transmissions, parce que c'est des histoires de migration, parce que c'est de la musique, parce que c'est du cinéma, parce que c'est une pensée, ce sont des blagues, ce sont un rapport à la vie, voilà, c'est tout ça. Donc on a voulu embrasser de façon beaucoup plus large, c'est peut-être une gageure, hein, ça c'est sûr, mais de montrer d'autres aspects, la contribution de ces cultures dans notre culture, parce qu'elles sont entièrement constitutives de notre culture, et de montrer tous les enseignements que l'on peut avoir en s'intéressant à cette histoire et en s'intéressant à ses présences et à ses sentiments d'appartenance.
Alors du coup, moi ce que j'entends dans cette spécificité-là et dans la manière dont vous présentez votre volonté de montrer cette exposition, on est au-delà de vraiment quelque chose de purement muséal. Et bon, là je vais me tourner un peu plus vers Amélie, j'essaye avec mon micro qui me gêne. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est une exposition qui a été pensée comme vivante aussi, dans le sens où le matériau est vivant puisqu'il est contemporain, mais aussi c'est une exposition qui se veut volontaire dans la démarche vers le public. Et c'est en ça que j'ai envie de vous poser la question de ce que ça veut dire de présenter cette culture juive aujourd'hui. Est-ce que ça répond à une nécessité, à une actualité peut-être, de choses qu'il y aurait à rétablir à travers l'art et la culture dans notre société?
Déjà, juste comme vous le dites, dans la façon dont l'exposition a été travaillée et aussi dans la façon dont les expositions sont travaillées en règle générale au musée dauphinois, la parole et la place des premiers concernés, donc des associations, de tous les partenaires qui ont traversé l'exposition, est très très importante. Et c'est aussi en ça que, enfin, en tout cas quand on en a discuté avec Franck, qui me raconte aussi la façon dont il a travaillé le projet en lien avec le territoire, c'est aussi en ça que l'exposition est très contemporaine, parce qu'elle porte la parole des associations et des premiers concernés aujourd'hui. Et donc, pour répondre d'abord, en premier à la question que vous posez, c'est pour ça aussi que je trouve que ce travail il est très ancré dans le territoire et qu'il est important au musée dauphinois, parce que c'est la façon de travailler du musée dauphinois dans ces divers projets. Et après, sur les questions d'actualité, je peux laisser Franck répondre aussi.
Oui, proposer une exposition sur ces présences juives, sur les juifs, sur leur culture, je pense que ça sera toujours nécessaire. C'est une histoire qui n'est finalement pas si connue que cela, voire même très méconnue. On réagit bien sûr à cette ambiance, plus que cette ambiance, ces actes condamnables de l'antisémitisme. Et pour lutter contre cet antisémitisme ou contre toutes les haines, eh bien, il faut déjà avoir un minimum de connaissances. On n'a pas la prétention de faire une histoire complète et exhaustive, mais au moins une mise en contact, une première mise en contact avec ces paroles de ceux qui vivent leur judaïté, qui se sont rendus disponibles pour donner leur voix, pour partager leur voix et dire mais écoutez-nous déjà dans un premier temps. Et est-ce qu'on y arrivera ou pas, c'est simplement de montrer que ce sont bien sûr des personnes qui sont actives dans notre société contemporaine, qui cherchent à construire ensemble cette activité avec leur personnalité individuelle, avec une logique d'une culture partagée autour du judaïsme. Mais donc c'est nécessaire d'avoir ce premier contact, en tout cas.
Donc vous faites un peu le pari d'une exposition qui viendrait brandir des paroles de tolérance et d'ouverture à l'autre et de bataille contre l'ignorance et la discrimination, c'est ça ?
Tout à fait, c'est le rôle du musée, c'est un musée de société, donc c'est comment on vit la société ensemble. Ça passe par le dialogue, ça passe par l'écoute. Je parlais de la radio, on a demandé à une journaliste, à Clémentine Métainier, de nous accompagner dans cette démarche et dans l'écriture de l'exposition. On a souhaité tendre le micro, véritablement, comme on le fait là autour de la table, ensemble, pour entendre ces voix, les mixer, et de montrer à la fois une diversité, une sorte de chant choral, comme ça, entre en particulier des jeunes gens. Et on a vraiment tenu à ce que ce soit des paroles de la jeune génération, entre 20 et 30 ans. C'est aussi peut-être une différence par rapport à des musées liés à la résistance et à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, où il est nécessaire d'entendre les aînés, et il est nécessaire d'entendre ceux qui ont vécu aussi ces épisodes historiques. Mais plusieurs générations se suivent, et voilà, c'était essentiel pour nous de dire, mais et vous, les plus jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez? Comment vous le vivez? Est-ce que ça a un sens pour vous encore aujourd'hui? Et les visiteurs de l'exposition, je pense, se reconnaîtront, parce que je ne parlerai pas d'une dimension universelle, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé et qui engloberait trop de choses. Mais en tout cas, je pense que ces jeunes générations peuvent trouver un écho, un répondant par rapport à leur propre vécu, et on dépasse, bien sûr, la simple question de la judéité.
Oui, à défaut de partager tout à fait une culture commune, ils partagent au moins un sentiment de génération, et ce sera déjà un premier pont à faire. Est-ce que vous avez senti ou vu que ça avait déclenché peut-être des réticences ou des critiques, ce thème-là ?
Non, pas de réticence. Je dirais plutôt, à ce jour, c'est plutôt le mot courage qui vient souvent. Voilà. On a rencontré énormément d'acteurs avec Amélie, avec Maëlys maintenant, et avec l'ensemble de l'équipe du musée dauphinois. Et donc, une exposition dans un musée de société, c'est une sorte de tribune, certes, c'est vrai, mais c'est une tribune qui est ouverte. On la souhaite plus comme un forum. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi des rencontres qui vont animer tout le long de l'exposition pour qu'il y ait des temps de discussion avec cette population juive, de Français juifs, de Français goy, non juifs, parce que bien sûr, les propos s'ouvrent à tous. Donc, on est plutôt encouragé, Après, on est très curieux de voir quelle sera la réception de cette exposition. Et pour compléter et finir sur ce point-là, on constate tout de même qu'il y a une grande acceptation par d'autres acteurs culturels. Je pense à l'Institut culturel du judaïsme à Lyon. On voit comment l'ouverture se fait parce que c'est un espace de dialogue. On le voit dans des musées liés au judaïsme autour d'Avignon, d'Isle-sur-la-Sorgue, Carpentras, que l'on aborde. Et l'accueil est très majoritairement positif. Voilà. Et on peut aussi rappeler cette ouverture de beaucoup à ces différentes formes de culture, à la diversité des cultures. Et malheureusement, il y a quelques personnes qui ne sont pas dans cette optique.
Thank you.
On reviendra sur justement les moments de médiation qui sont prévus avec vous, Amélie, tout à l'heure. Peut-être on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on tourne un peu autour du pot, et je pense que nos auditeurs sont impatients de savoir ce qui s'y passe dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, tous les trois, sur la manière dont vous avez imaginé et conçu cette exposition, peut-être de manière un peu plus concrète, c'est-à-dire, je crois que vous avez imaginé des parcours, on a parlé de l'aspect historique, de l'aspect plutôt contemporain, il me semble que vous avez beaucoup de partenaires, mais aussi de partenaires artistiques dans la fabrication de cette expo, avec beaucoup de matériaux différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu dans comment ça se présente et puis comment on déambule dans tout ça, Thomas, Amélie et Maïlys?
Je vais peut-être amorcer la réponse. Je laisserai Amélie et Maïlys compléter. Une exposition, c'est un média, c'est une écriture, et donc avec son vocabulaire, avec sa grammaire. Et c'est là aussi on a le plaisir d'expérimenter de nouveaux projets. Souvent, moi je dis que c'est un exercice de style. On apporte juste un mot, juif. Voilà, ça c'est le point de départ. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert. C'est pour ça qu'on s'entoure aussi de beaucoup d'experts. Donc, on s'entoure de beaucoup d'experts, notamment, si je dois en citer qu'un, mais il y en a bien d'autres, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, quand même une référence en la matière, et avec une équipe vraiment extra hein, qui nous a accompagnés dans l'accompagnement scientifique. Donc il faut proposer un parcours qui soit accessible pour le plus grand nombre. Et on a fait ce choix de faire un rappel historique sur 2000 ans. Mais ce rappel historique sur 2000 ans est en réalité plutôt un portrait de l'actualité de la recherche archéologique et historique. Et donc on montre les archéologues aujourd'hui en train d'écrire l'histoire juive de la France. Et ça, c'est un terme important, de voir comment l'histoire elle-même évolue dans sa notion et comment, pendant... jusqu'à très récemment, jusque dans les années 1980 pour l'archéologie, eh bien, on n'écrivait pas cette histoire juive de la France. Voilà. Et c'est une forme d'action que l'on a voulu partager à la fois à travers des photographies, parce qu'on montre des sites hein, de fouilles, on ne peut pas faire venir les sites de fouilles au musée, mais on a surtout demandé à un réalisateur, Thomas Bosato, de faire des documentaires vidéo. Donc, sur cette partie-là, il y a 9 petits documentaires vidéo où vous pourrez entendre tel archéologue qui, à Manosque, a conduit un chantier de fouilles d'un cimetière médiéval juif oublié, donc le plus grand d'Europe. Donc, elle explique...
Rien que ça.
Voilà, c'est ça. Une autre personne qui va parler de ses études de Saint-Paul-Trois-Châteaux. On sait qu'il y a une présence juive. Et elle trouve un bain rituel, ça s'appelle un mikvé, chez une personne et qui pensait que sa cave était juste inondée régulièrement, mais non, c'est parce qu'il y a une source d'eau vive qui était nécessaire pour alimenter ces bains rituels juifs. Donc là, c'est du très concret, c'est vraiment...
C'est de l'archéologie vivante, quoi.
C'est de l'archéologie vivante, voilà. Ensuite, on a voulu faciliter aussi l'accès à toute cette histoire qui est super complexe en réalité, hein, par le dessin. Donc, parce que je suis amateur de bande dessinée, tout simplement.
Voilà, c'est bien de l'avouer des fois. On fait des choses parce qu'on les aime bien.
Mais voilà. Et donc, on a pu, dans l'équipe de scénographie, demander à ce que cette équipe de scénographie, qui met en espace, une mise en espace, et du graphisme, mais qui est un complément par une illustratrice. Donc, il y a une jeune illustratrice qui s'appelle Anouk Glorieux qui nous a fait de la bande dessinée partout. Donc, vraiment, il y a des petits personnages qui expliquent.
Donc, ça, c'est un peu le fil de l'expo.
Tout à fait. Ouais.
Très bien.
Ouais. Donc, ils sont joyeux, ils sont colorés, ce que vous pouvez voir sur l'affiche, notamment. Et puis, peut-être pour citer d'autres formes d'écriture, quand on fait cette exposition, on a fait un appel à collecte auprès de familles juives pour avoir des objets. Des photos, des documents, et c'est souvent des objets très 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 modestes, hein, parce qu'à travers ces histoires revient ce que vous évoquiez au tout début, les cultures de l'ailleurs, en tout cas ces migrations vécues par les populations juives, souvent en raison des pogroms, en raison des expulsions, mais aussi des dictatures. Il y a des personnes juives venant d'Argentine, donc on est dans les années 1970, et qu'est-ce qu'on ramène? Mais peu de choses, hein. C'est une petite cuillère, une pince à sucre, mais elle est chargée d'histoire, elle est chargée d'émotions aussi. Et à côté de cette collecte de famille, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette écriture avec le journalisme radio, avec Clémentine Métainier, qui a fait une création, une pièce sonore de 30 minutes, très longue dans une exposition, mais on a pris ce pari-là pour aussi mutualiser après sous forme de podcast. On pourrait imaginer compléter les enregistrements comme vous le faites aujourd'hui, mais c'est un gros travail.
C'est pour après l'exposition.
Là, c'est ça. Il faut garder l'énergie, oui, et le focus là-dessus.
Donc, il y a à la fois une dimension régionale et nationale, c'est ça, dans ce travail-là, où c'est vraiment concentré sur les Alpes, entre Rhône-Alpes.
Alors, on a fait le choix de faire une couverture sur le grand sud-est de la France, le grand quart sud-est de la France. Et pour être simple, c'est ce qui explique le sous-titre. On part de la ville d'Arles, au bord de la Méditerranée, au temps de l'Antiquité, à l'époque antique, et on remonte jusqu'à Vienne en Isère. Et on passe par le Comtat Vénécin, c'est-à-dire ce sont les étapes du pape en France autour d'Avignon, parce que là il y a une histoire très particulière et bien connue des Juifs, à qui on a demandé d'être présents dans seulement 4 communes. Donc on parle de tout ça. Et puis dans le contemporain, comme on a mené une démarche vraiment participative, on est sur Grenoble, vraiment, vraiment Grenoble, parce que là aussi, cette présence est marquée, enfin pas marquée, c'est pas le bon mot, mais bien sûr quand on part en altitude ou dans les plaines, c'est plus difficile de rencontrer des témoins. Ça permet aussi de montrer cette vigueur, cette volonté de partager les cultures juives par les juifs eux-mêmes, à travers des festivals, à travers des chorales, à travers la musique. Là, Amélie pourrait prendre le relais, à travers la musique klezmer, les chorales. Oui, tout ça, c'était important de revenir sur Grenoble pour mieux le partager aussi avec les Grenoblois, les Isérois.
Bah, ça tombe très bien, Amélie. Je voulais justement vous interroger un peu plus précisément sur la manière dont vous avez pensé aussi, vous, la déambulation dans cette exposition, parce que c'est peut-être vous qui vous êtes plus intéressé à la question de la réception et du public. Alors, pas uniquement, bien sûr, j'imagine que vous travaillez ensemble, mais comment est-ce que tout ça s'articule pour que ce soit lisible pour le public? Comment est-ce que vous avez imaginé ça?
Eh bien, on a imaginé surtout un gros programme de médiation autour de l'exposition. L'exposition elle-même est très accessible aussi via le travail de scénographie et des différents médias, comme l'a expliqué Franck, qu'on peut retrouver dans l'exposition et qui permettent aussi une lecture dont on peut s'approprier et qu'on peut aussi revenir écouter, revenir voir, parce que on imagine bien qu'un ou une visiteur ne restera pas plus de 30 minutes à écouter la pièce sonore de l'exposition, mais aura peut-être plaisir à revenir pour écouter d'autres bouts et d'autres témoignages qui vont tourner dans l'exposition en permanence, et aussi pour les vidéos qui finalement sont aussi un média qui est long et qui permet aussi une découverte peut-être aussi sur long terme de l'exposition, tout ça ponctué par toutes les illustrations d'Anouk. Donc ça, c'est tout plein de d'aspects aussi qui dans l'intérieur, dans la scénographie, permettent au public de s'approprier l'exposition de différentes manières.
Donc il y a un petit goût de reviens-y pour provoquer l'addiction à l'exposition. C'est ça votre,
on espère.
Votre plan.
Tout à fait.
Et concernant la médiation, donc il y a un gros programme d'événements et d'activités qui sont prévus autour de l'exposition aussi à destination de publics divers, comme on a l'habitude de le faire. Pour construire cette médiation et cette programmation, on s'est d'abord appuyé du coup sur nos partenaires, sur les partenaires associatifs et toutes les personnes donc qui avaient des choses à raconter dans l'exposition, mais qui nous ont aussi donné beaucoup de conseils sur des événements, des formes artistiques ou de la musique ou autres, ou des rencontres qu'ils aimeraient bien, enfin des questions aussi soulevées par l'exposition qu'on pourrait discuter aussi autour de l'exposition. Et on s'est entouré de partenaires, bah, notamment aussi avec Radio Campus, avec plusieurs aspects, un aspect plutôt de discussion avec les conversations radiophoniques. Donc on va mener avec Radio Campus une série de 5 conversations sur des sujets assez divers. La première au lendemain de l'inauguration, le 28 novembre, avec l'équipe du coup du musée d'art et d'histoire du judaïsme, plutôt sur la question de l'histoire juive de la France, cette fois-ci niveau national. Et puis d'autres sujets qui sont soulevés par l'exposition ou qui ont été soulevés aussi par les questionnements autour de l'exposition, et comme des questions philosophiques autour de l'exposition, comme la place de l'humour juif, de la représentation aussi de la judaïté dans la bande dessinée. Et donc à chaque fois, on a essayé d'accompagner donc par la journaliste Clémentine Métainier de trouver des intervenants et des intervenantes qui pourraient venir discuter avec nous de ces sujets avec le public, et tout ça du coup enregistré avec le soutien de la radio. Et donc tous ces rendez-vous seront disponibles après à réécouter sous forme de podcast. On a aussi créé un partenariat avec le musée de Grenoble qui eux ont créé, sont en train de créer un parcours de visite dans leur collection et permanente, et aussi dans leurs expositions, notamment peut-être un petit passage par l'exposition BD qui va ouvrir la semaine prochaine, autour donc d'un regard sur l'histoire de l'art liée à la judaïté dans leur collection. Donc ça, on est très heureux aussi du partenariat avec
eux. Donc une manière de réinvestir le musée de Grenoble, là aussi peut-être des fois des collections qu'on pense avoir déjà vues et qui serait l'occasion de les redécouvrir par ce biais-là.
C'est ça, avec un questionnement différent et donc en écho aussi avec notre exposition. Donc là, il y en aura 5 aussi pendant tout le long de l'exposition. Des rendez-vous pour le jeune public aussi, c'est un axe qui est assez important pour nous, avec des ateliers de dessin donc qui seront menés par Anouk Glorieux, l'illustratrice. Un spectacle aussi autour des contes juifs en partenariat avec les Arts du Récit. Et puis la place aussi très importante de la musique, donc cette fois-ci avec des rendez-vous musicaux en lien avec la chorale Diaspora Imzinger, avec la musique klezmer, donc en lien avec un festival de musique klezmer qui aura lieu en mars. Donc c'est comme d'habitude au musée dauphinois, très florissant, très riche.
Et vous avez mis tout Grenoble au travail là, si je comprends bien.
C'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas.
Une pièce de théâtre.
Une pièce de théâtre aussi. Donc là, cette fois-ci, elle sera présentée une compagnie qui s'appelle Novecento et qui va aussi proposer une pièce de théâtre la veille au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, donc sur des sujets plus historiques, et une lecture théâtralisée d'un texte de Monsieur Grimbert, je n'ai plus son prénom.
Oui.
Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle Lettre ou pas, pour en finir avec la question juive. Donc une discussion dans une cage d'escalier entre un voisin et son voisin, qui le questionne sur qu'est-ce que c'est qu'être juif.
C'est très drôle.
Grande question.
C'est très drôle,
oui. Oui, donc il y a quand même de quoi rythmer cette année d'exposition. Moi, je me disais, bon, du 27 novembre au 27 septembre, Que va-t-on bien pouvoir faire au musée dauphinois? Bon, ben, vous avez répondu à ma question.
Du vendredi au samedi, on est censé être en famille. Vendredi soir, c'est pas un jour où on va être avec les copains dehors au resto. Ça se fait pas, quoi. Donc le vendredi, ça commence par l'allumage des bougies. Ça veut dire qu'on rentre dans Shabbat. Ensuite, il y a un repas qui a été préparé avec un peu plus d'amour que les autres jours de la semaine, on va dire ça comme ça. Et c'est un repas qu'on va passer à table, donc il va commencer par une prière. On se met tous à table, il n'y a pas de téléphone, par exemple, c'est un détail, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé le vendredi soir. Le repas du vendredi soir et le repas du samedi midi, ils se déroulent plus ou moins de la même façon. C'est des moments de famille.
Et comme me dit toujours ma mère, eux, le vendredi soir, il y avait toujours ses copines qui venaient chez elles, parce qu'ils ne devaient pas rentrer à 23h, mais ils avaient le droit de sortir à partir de 23h, après avoir partagé un bon dîner en famille à Shabbat. Du coup, tout le monde venait, c'était la planque pour sortir le vendredi soir, parce qu'ils étaient pratiquants, mais cool quand même. Normalement, on ne sort pas chez les vrais pratiquants, on ne sort pas à Shabbat, mais le tout, c'était de partager un bon moment ensemble avant de vaquer à ses occupations, quoi.
Le Shabbat, c'est aussi une belle tradition où on se réunit, justement. Donc ça peut être à la synagogue, ça peut être en famille, ça peut être entre amis. Moi, je vais toujours me réunir, je vais toujours me rassembler avec d'autres personnes, voir du monde, pas forcément à la synagogue. Pour moi, ça passe plus par le social, par l'amical, justement, avec des personnes juives, mais aussi avec des personnes non juives, où c'est génial de faire découvrir ces traditions, parce qu'elles sont belles, ces traditions.
C'est-à-dire que tout le monde va débriefer de sa semaine, on va tous se raconter des choses, souvent ça part en débat, selon qui y a autour de la table. C'est un instant qui est un peu privilégié.
Mon père, très reculé de manière générale des religions, hein, qui n'est pas du tout... athée mais catholique de base, baptisée d'une famille très sicilienne, deux opposés pour le coup. Moi, j'ai pas connu ma grand-mère maternelle, mais lui l'a connue et il faisait beaucoup les fêtes chez ma grand-mère. Tous les vendredis soirs, ils étaient à Shabbat chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est des traditions quand même qu'il a vécues, qu'il apprécie. Après, c'est des traditions. Il y a tradition et religion, quoi.
Les fêtes juives sont des fêtes qui célèbrent des événements historiques qui se sont passés, donc plus ou moins réellement, plus ou moins dans l'histoire de la religion, de la Torah. Mais rien que ça, en fait, c'est lourd à connaître, à apprendre, à comprendre vraiment l'histoire. C'est vertigineux. Quand on m'a dit qu'il y avait des sages, des rabbins qui étudiaient la Torah tous les jours et qu'en fait c'était ça leur métier et qu'ils faisaient rien d'autre de leur vie, je me disais, mais... qu'est-ce qu'il y a à faire à part lire le livre une fois, faire des annotations et puis basta. Mais en fait, non, il y a relire, réinterpréter, réapprendre. C'est très impressionnant.
Et puis, on est dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont édictées dans le texte, notamment les règles par rapport, quand on va dans un cimetière, normalement, à la fin, il faut sacrifier une vache rouge. Donc c'est un peu compliqué à faire. Donc, ça, on le fait pas. Donc, au final, on est toujours en deçà, quoi. Il y a un peu ce côté-là. En tout cas, c'est une quête. Voilà, c'est un parcours, quoi. C'est ce que je perçois.
Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est la question des témoignages et aussi des apports de la part de citoyens, citoyennes grenobloises de leur témoignage et de leurs petits objets dont vous parliez tout à l'heure. Je ne sais pas qui s'est occupé de ça d'entre vous, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on contacte ces gens-là pour leur dire on aimerait bien exposer votre petite cuillère? Ou est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est pour vous d'être juif à 20 ans en 2025?
C'est un travail... qui se fait, on dit qu'on est à quelques poignées de main du monde entier. On procède comme ça, hein, c'est-à-dire on rencontre une personne, puis une autre. Donc il faut du temps. Il y a des acteurs associatifs qui après nous facilitent l'ouverture des portes. Ce que j'ai pas dit par exemple, c'est que ça a été aussi l'opportunité d'aller à la rencontre des responsables des synagogues de Grenoble qui nous ont ouvert de façon très très chaleureuse leurs portes et les 5 synagogues de Grenoble. Voilà, ça sera aussi une découverte, je pense, pour beaucoup de Grenoblois. Et cette empathie qui se crée, en fait, dans ces rencontres, On sait quand on a l'heure de départ de la discussion et 2 heures après, on est encore en train de discuter. J'ai souvent dit une blague qu'a repris Amélie, c'est que l'exposition aurait pu être simplement une table et 2 chaises et puis on aurait pu discuter pendant des heures. Peut-être que ça fait partie un peu de cet esprit juif que j'ai tant apprécié en tout cas. On sait ce que l'on souhaite aussi nous partager en termes de témoignages, donc après dans ces rencontres-là. C'est aussi une façon de sensibiliser ce public direct de témoins à la valeur de leur témoignage. Et certains se repenchent sur cette histoire, sur cette écriture et comprennent tout l'intérêt, toute la portée de parler, tout simplement, d'avoir en face une oreille qui va les écouter. Donc ça, ça se fait naturellement, mais il faut du temps. Voilà, donc on est sur pratiquement presque 3 ans de projet, en réalité.
D'accord, c'est 3 ans de préparation.
Oui.
Donc 1 an d'exposition, c'est pas trop pour présenter tout ça. Super.
Je peux dire une blague juive à ce propos. Vous pourriez me dire 3 ans pour faire une exposition. Je dirais oui. Vous pourriez me dire, et Dieu a mis que 6 jours pour créer le monde. Et je vous répondrais, mais vous avez vu dans quel état est le monde.
Ça y est, l'esprit juif vous a touché.
Exactement.
Alors, il y a un micro qui n'a pas fonctionné encore depuis le début de cette discussion. Et pourtant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse, non pas au micro, mais à la personne derrière. Maëlys, vous êtes en service civique.
Oui, c'est ça.
Au sein du musée dauphinois, spécifiquement pour cette exposition.
Oui, c'est ça. Bah, je suis arrivée il y a 3 semaines. Donc, je découvre encore l'exposition, même si je me suis déjà bien documentée. Mais non, je suis très heureuse de participer à ce projet, même si j'aurais plus une place à l'intérieur de l'exposition que dans la préparation, finalement.
Alors, c'est quoi votre casquette dans cette expo, dans la préparation ou dans la mise en place de cette expo?
Déjà, dans la mise en place, la fin de la mise en place, on va dire que je passe beaucoup derrière, dans le sens où ça va être beaucoup de corrections et de relectures, en tout cas pour le moment, et aussi quelques préparations... sur l'exposition, encore aujourd'hui, on testait les vidéos. On a testé aussi les audios la dernière fois. Donc oui, c'est un travail pour l'instant vraiment, personnellement, de documentation, parce que je suis arrivée ici en connaissant que très peu de choses sur la judéité et sur son histoire, notamment celle en Isère. Comme je ne viens pas d'ici à la base, je découvre tout, mais j'apprends énormément de choses et donc je... Je pense que beaucoup de personnes vont apprendre durant cette exposition. Et justement, durant celle-ci, je vais être beaucoup sur l'espace pédagogique qui se trouve dans l'exposition. Les ateliers, donc des ateliers avec des scolaires. Il y aura une borne multimédia aussi pour permettre aux plus jeunes aussi de comprendre la portée de l'exposition et le message qu'il veut véhiculer. Et aussi... rencontrer les visiteurs, leur répondre à leurs questions et savoir connaître leur avis et leur réception dessus.
Ouais, donc vous êtes tout indiqué à cette place-là, puisqu'en tant que, entre guillemets, novice sur l'exposition, vous avez aussi, vous êtes posé toutes les questions que peut-être ils vont vous poser et vous avez un regard un peu plus neuf.
Oui, c'est ça. Bah, c'est
vrai. Les personnes qui y ont passé 3 ans.
Effectivement. Franck et Amélie, ils savent tout. Moi, je ne sais pas encore tout. Mais oui, justement, comme je me suis posé ces questions, je serai peut-être la plus à même aussi d'y répondre sans les perdre, on va dire.
Oui, c'est ça, sans avoir quelque chose de trop savant, peut-être.
Oui, c'est ça.
Et alors là, interdiction de regarder vos référents de stage. Est-ce que vous auriez un petit détail croustillant, un petit secret d'arrière-cuisine à nous partager sur la préparation de cette expo? Une surprise, quelque chose qui vous a surpris ou...
Non, là, dans l'immédiat, c'est difficile. Il s'est passé déjà beaucoup de choses, mais on va dire que les coulisses de l'exposition ne sont pas les plus pratiques, physiquement. Encore aujourd'hui, on s'est retrouvés, on va le dire, à 4 pattes derrière les cloisons de l'exposition pour essayer de rentrer une clé USB dans un boîtier. Par exemple.
Par exemple. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien ouvrir un petit peu après cette exposition, enfin, ou non, c'est pas vraiment après, c'est vous entendre chacun et chacune sur vos... Là, on est à quelques jours de l'exposition, on est à une semaine, c'est ça ? Ah, j'aime bien en rajouter un peu comme ça. La tension monte. quelles sont vos attentes ou vos espoirs ou vos craintes ou vos souhaits à ces quelques jours de l'ouverture ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
C'est... On espère juste que ça déconstruise peut-être certains préjugés, voilà. Peut-être que ça ne réponde pas aux questions. Presque je préférais que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Parce que de toute façon, on n'aura pas, nous, la prétention d'apporter la réponse à tout. Mais en tout cas, de se dire... tant d'histoires pour ça, quoi. Tant d'histoires pour ça. Enfin, c'est un décalage. Il y a plein d'explications de ces actes malveillants, de ces pensées-là. Mais prenons la peine juste de nous écouter, quoi. C'est tout. C'est tout. Il y a des voix, il y a des oreilles. Voilà.
Faisons-les se rencontrer.
Ouais.
Maëlys, Amélie, vous avez... Vous, des espoirs, des envies, des attentes ?
Moi, ce serait, pour rebondir sur ce qu'a dit Franck, déconstruire des amalgames, prendre la peine de découvrir des personnes tout simplement humaines.
Oui, moi, j'espère que le public prendra le temps d'écouter. De découvrir. Justement, on a plein de choses à dire dans cette exposition. En même temps, comme le disait Franck, la volonté n'était pas forcément au départ de dire beaucoup de choses, mais juste de pouvoir discuter. Et donc, j'espère que le public aura envie et prendra le temps d'écouter un petit peu.
Ben, on les y invite, en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre dans cette expo et que vous auriez voulu y mettre ? Ou peut-être des envies, que ça a déclenché des envies pour des prochaines expositions ?
Une exposition, c'est un choix.
Choisir peut-être, se renoncer.
Peut-être qu'elle est déjà un peu bavarde. Quand on dit qu'il y a une demi-heure d'écoute radiophonique, plus d'une demi-heure de vidéo, on pourrait dire plus, mais après c'est trop, c'est sûr. Il y a un thème que j'aurais bien aimé développer peut-être un peu plus, qui était important dans les discussions. Il est juste effleuré. C'est la question du mariage, qui est très importante en fait. Qui a révélé beaucoup de possibilités, je pense, de rencontres et de tolérance. Voilà, de mariage mixte,
par la mixité, oui.
De mariage, de divorce, de la déconversion aussi, enfin, toutes ces postures. Et je pense que le mariage, oui, aurait été un point que j'aurais souhaité développer plus au départ, et puis ça s'est fait autrement.
Ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Radio Campus pour nous parler de l'exposition Une histoire juive, qui commence donc le 27 novembre. 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes, donc il fallait bien une exposition pour tout ça. Merci de vous être rendu disponible et d'avoir répondu à nos questions. Et j'invite évidemment les auditeurs de Radio Campus à s'y rendre dès la semaine prochaine et puis pendant un an, puisque il faut aussi suivre toutes les actualités des spectacles, des médiations, des rencontres, des films, toutes ces choses qui vont être présentées en parallèle de l'exposition.
Et si je peux juste préciser que le musée dauphinois est, du coup, fait partie du réseau des 11 musées gratuits du département de l'Isère.
Important.
Donc n'hésitez pas à venir car c'est gratuit.
Et donc à revenir.
C'est ça, c'est ce qu'on insinuait tout à l'heure. Et à visiter aussi les autres musées comme le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère qui nous a beaucoup accompagnés aussi dans ce projet par exemple.
Oui, merci de la précision, effectivement. À très bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Retour du festival Dolce Cinema qui a lieu en ce moment à Grenoble. Il faut que je vous parle de Diamanti de Ferzan Özpetek, sorti en décembre 2024. Alors, première scène, une immense table est dressée dans une cour. Les plats circulent, les verres trinquent et tout autour un palmarès de femmes. Quelques hommes, réunis sans explication par le maître des lieux. Pour son 15e long métrage, deuxième autobiographique, le réalisateur Ferzan Özpetek se met pour la première fois, discrètement, en scène. Il joue son propre rôle, celui d'un réalisateur convoquant toutes les plus grandes actrices de son entourage pour jouer son prochain film. Une histoire de femme dans un prestigieux atelier de couture des années 70-80 en Italie. Premier point de rencontre entre le réel et la fiction, Ferzan Özpetek réunit effectivement une dizaine d'actrices avec lesquelles il a déjà travaillé pour composer le casting de Diamanti. S'engage alors un subtil va-et-vient entre la table de lecture du scénario avec les actrices et le réalisateur et les tables de l'atelier de conception de costumes dans lequel chacune des comédiennes est devenue une des couturières. Dans le microcosme de l'atelier, où elles passent le plus clair de leur temps, se rejouent les hiérarchies sociales et générationnelles, les amitiés et les liens de famille. Mais plus que les rivalités, Diamanti a choisi de montrer la complicité de ces femmes, notamment dans leur mise à l'épreuve. Car elles doivent collectivement affronter les défis du travail, l'exigence des clients, les délais infernaux, la direction tyrannique, mais aussi composer individuellement avec les tracas qui les attendent une fois rentrées chez elles. L'absence, la violence, la pauvreté, les maris, les enfants, le foyer. Chacune avec ses multiples facettes, elles font groupe, comme une troupe de théâtre, de comédiennes inséparables. Sans qu'aucun rôle ne soit négligé, toutes sont brillantes. Pas seulement belles, mais talentueuses, comme couturières et comme actrices. Parfois dures, pour rester indestructibles, comme des diamants. Décor, costumes, musique, jeux dramatiques, Diamanti ou du cinéma qui parle de cinéma, mais par les coulisses, qui montre l'art sous toutes ses coutures et joue à plein avec les ressorts de celui qui les réunit tous, le cinéma, pour créer un véritable film-spectacle.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.